On est en attente de Martin Thériault qui va se joindre à nous dans les prochaines secondes. En attendant, on va revenir, Tony, sur la décision de Justin Carbonneau.
Ouais.
C'est intéressant ce qu'il a fait, le jeune homme. Il a décidé de rester avec l'Armada de Blainville-Beaubriand parce que je pense que la possibilité de gagner le trophée dans le LHJMQ a penché beaucoup dans la balance.
Ouais, je pense que oui. Je pense que oui, dans le cas de Justin Carbonneau. De ce qu'on comprend, puis ce qu'il laissait entendre aussi avec Greg Langteau lorsqu'on l'a eu en entrevue, d'ailleurs, un bon coup du retour des sportifs, parce que la nouvelle a sorti, puis ils ont été capables de mettre la main sur lui, puis être capables de lui parler, puis il a été très transparent dans ses réponses, bien apprécié la chance de l'entendre tout de suite là, lors de sa décision. Puis ce qu'on comprend, c'est que lui, là, il veut vraiment là, boucler la boucle à Boisbriand, connaître une grosse saison, remporter le trophée et après partir avec le sentiment du devoir accompli et dire ben là, le hockey professionnel m'attend. À 20 ans, il va jouer pro. Si c'est pas dans la Ligue nationale, ça va être à Springfield dans la Ligue américaine, dans le club école des Blues. Alors tant mieux pour Carbonneau. Il parie sur lui-même. Il a sûrement consulté les Blues qui ont entériné la décision.
Assurément.
Je pense que c'est une décision qui a été bien réfléchi, bien mûri de la part de Carbonneau, de sa famille. Et au bout de la ligne, on a jugé que Boisbriand était le meilleur endroit pour se faire. Mais tu vois vraiment que l'Armada et la LHJMQ, il y a un sentiment d'alerte là, actuellement. Là, parce que c'est important pour la Ligue qu'immédiatement, au moment où Carbonneau confirmait sa décision, il fallait mettre ça partout. Là.
Ben oui.
Il fallait qu'on parle de ça.
C'est sûr.
On aurait peut-être aimé que ça sorte ailleurs qu'un vendredi. Peut-être qu'un lundi, ça aurait été plus approprié, afin qu'on en parle plus longuement. Mais moi, ce matin, c'était très important de revenir sur cette décision-là qui est capitale de la suite des choses pour la LHJMQ. Il faut stopper l'hémorragie et renvoyer un sentiment là, de positivisme autour. Là. Carbonneau l'a fait. Pourquoi un autre le ferait pas? Puis je dis pas que la décision d'aller à Boston College est nécessairement moins bonne. C'est juste que je pense que le hockey junior a des belles choses à offrir aussi. Il n'y a pas juste l'argent dans la vie. De toute façon, Carbonneau convaincu qu'il va la faire, son argent, là, éventuellement. Mais lui, dans son fort intérieur, le jeune, il est bien où ce qu'il est. Il veut continuer.
On va en parler justement avec Martin qui vient de se joindre à nous. Salut, Marty.
Hey, salut les gars, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Allô, Marty.
Ça va très bien, ça va très bien.
Ouais, ben, moi, j'ai ça. Il y a plusieurs angles dans cette histoire-là. Est-ce qu'il y a une question de réputation aussi? Est-ce que tu passes pour le mauvais garçon si tu décides que tu t'en vas du côté des collèges américains? Est-ce que tu passes pour le gars un peu, tu sais, en anglais on dit greedy, là, d'aller chercher le mouton et de laisser tomber tes coéquipiers? Penses-tu que ça, Marty, ça peut avoir un impact sur la décision de Carbonneau?
Ben, d'avoir l'air du mauvais garçon, je penserais pas. Je pense que vraiment le côté peut-être de vouloir aider ses coéquipiers, il l'a tellement mentionné souvent dans les derniers jours, dans toutes les entrevues qu'il a données, à quel point il était prêt à se passer. Il disait qu'il faudrait qu'on passe sur le corps avec un tracteur pour être en mesure de que je laisse tomber mes coéquipiers et tout ça. Je pense qu'il y a un petit peu, de tout ça. Par contre, ce que je sais, c'est que ça a été extrêmement difficile. Pendant un certain moment, on pensait vraiment que Justin Carbonneau allait jouer là, vraiment dans la NCAA. Puis je pense que c'est vraiment la dernière minute. Je vous écoutais un petit peu parler, les gars, là, par rapport à Justin Carbonneau. Je pense vraiment que les Blues ont peut-être eu un impact là-dedans. Peut-être qu'on l'a aidé à prendre une bonne décision. On a quand même déjà pris des. On a quand même déjà eu des joueurs qui ont joué au Québec, notamment Zachary Bolduc avant qu'il soit avec les Canadiens. Je pense que ça a permis de rassurer aussi par rapport à son développement, de s'assurer de dire ben écoute, ça va être bien, là, la LHJMQ quand même un bel endroit pour se développer et tout ça. Mais en parlant de mes réputations, là, je serais pas prêt à aller là nécessairement.
OK, c'est intéressant. En tout cas, j'espère que Carbonneau ça va bien se passer. Puis quand on parle que les Blues ont peut-être penché dans la balance, il y a peut-être une entente avec les Blues qu'après la prochaine année, moi je veux tourner pro. Si vous êtes prêt à me faire tourner pro, je reste ici. Si vous pensez pas me faire tourner pro l'année prochaine, ben je vais peut-être aller jouer 2 ans dans la NCAA. Il y a peut-être ça aussi qui rentre dans la ligne de compte. Je le sais que c'est un late, là, mais quand même, ça pourrait être intéressant.
Ouais, mais attendez-vous à une signature de contrat très rapide, j'ai l'impression, avec Carbonneau.
C'est sûr, parce que là, maintenant qu'il reste dans la LHJMQ, il peut signer son entente Ligue nationale de hockey.
Ouais.
C'est ça, moi aussi, je pense que ça s'en vient. Mais si on regarde pour le jeune homme là, au niveau développement, Marty, et tu sais, il a quand même eu une super saison l'année dernière avec l'Armada. Il a produit, les points sont au rendez-vous. Est-ce que pour son développement personnel, il n'aurait pas eu à gagner, à aller affronter des hommes à Boston College, ou il va quand même pouvoir se développer en restant ici?
La question est super bonne. C'est sûr que Justin Carbonneau, si ça a été dirigé dans la NCAA, c'est quand même des plus gros bonhommes. Tu sais, Justin Carbonneau, tu le regardes, son problème, c'est clairement pas physiquement. Son problème, c'est pas son coup de patin, c'est pas ses mains, c'est pas son tir. Donc, tu sais, au moins, C'est sûr que débarquer contre des joueurs de 19, 20, 21, 22, jusqu'à 25 ans parfois, ça l'aurait aidé. En même temps, je pense que Justin Carbonneau, justement par le style qu'il présente, il y a certains joueurs, là, je vais donner des exemples comme ça, des Justin Poirier, des Alexandre Blais, qui ont décidé de partir dans la NCAA. Eux, leur gros problème, c'est qu'ils ne sont pas très gros. Ils ont besoin de prendre de la force physique. Ils ont justement besoin de l'aspect de jouer moins de matchs, mais de prendre du temps dans le gymnase, de se renforcer du côté de la NCAA. Alors que Carbonneau, c'est pas vraiment... C'est pratiquement un des joueurs au niveau naturel qui est le... Je le mettrai très gros guillemets, qui est le plus près de la LNH. Donc, à quelque part, lui, tout ce qu'il a besoin, c'est d'avoir un style de jeu, de se développer de façon de, un peu plus LNH, de prendre un peu plus d'expérience. J'en ai souvent parlé de prendre peut-être moins de punitions d'indiscipline parce que soudainement, on te sort de ton match. C'est plus des petits détails comme ça que Justin Carbonneau doit améliorer. Ça, dans la LHMQ, il est amplement capable de le faire. Puis les gars, vous le savez, comme moi, je pense que gagner un gros trophée, se rendre très loin, à un moment donné, ça n'a pas de prix. C'est sûr qu'il y aurait eu de gros matchs à Boston College, mais peut-être pas comme... tu peux vivre à Boisbriand, où ce que là, tous les jours, tous les matchs, constamment, chaque semaine, tu te fais dire que tu dois gagner, la pression est là, et tu le vis là vraiment tout au long de ta saison. Pas que tu ne le vis pas à Boston College, mais comme tu joues peut-être un peu moins de matchs, peut-être que tu sens peut-être un petit peu moins la pression. Donc je pense que dans son cas, la LHMQ, c'est quand même une belle option aussi.
Oui, puis quand tu regardes ça, on l'a bien entouré cette fois-ci, là. Il sera pas tout seul à l'attaque là, du côté de l'Armada. On a fait des acquisitions de premier plan pour aider l'équipe à gagner. Puis quand même, chapeau à eux qui sans connaître l'avenir avec Carbonneau à court terme,
t'as raison.
Ils ont décidé d'acheter pareil. Ça a peut-être influencé aussi sa décision.
Ben, c'est clair que ça aide. T'sais, comme je parlais de gagner, justement, t'sais, là, tu passes de Boston College où t'es pas trop certain. Il y a quand même de gros candidats. T'as Boston University, t'as Connecticut, t'as des universités comme ça. Là, au moins, à Boisbriand, tu le sais que t'es dans le sommet. T'sais, tu viens d'aller chercher Bill Zonon. Je suis convaincu que Zonon a dû lui parler quand même pas mal aussi. Les deux ont été dans certains événements et tout ça. Je suis pas mal sûr qu'il a dit, écoute, viens à Boisbriand, tu vas voir, ça va être le fun. Un gars comme Matteo Nobert également, avec qui il a joué toute la saison, des gars comme ça. C'est sûr que ça aide. T'sais, tu regardes l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui est peut-être l'équipe favorite pour le trophée Gilles Courteau cette année. Là. On est blindé, on est allé chercher Spencer Gill. Il y a Maël Lavigne qui s'amène à 20 ans. T'as Vincent Collard qui s'amène à 20 ans. T'sais, là, vraiment, là, peu importe avec qui tu vas le placer, là, Carbonneau, c'est clair qu'il va pouvoir faire des dommages. Ça, ben, ça pèse dans la balance.
C'était de loin le plus gros poisson qui pouvait quitter vers la NCAA. On peut-tu dire que pour cette année, du moins, la LHJMQ l'a échappé belle? Là, on sauve quand même les meubles et on est capable de conserver nos effectifs?
Ben, il reste toujours Caleb Desnoyers. Donc lui, on va vérifier, on va voir. Là, on dirait que je suis un petit peu optimiste dans son cas, mais il reste quand même à valider tout ça. Moi, je m'attendrais peut-être à ce qu'il s'entende avec le mammouth de l'Utah dans pas très longtemps. Mais je pense que c'est important de noter que du côté de la LHJMQ, je me dis quelque part, est-ce que, tu sais, au final, là, ça a peut-être été moins pire qu'on le pensait. Je te dirais, là, parce que tu regardes les joueurs qui partent. Bon, on a parlé de Justin Poirier. C'est peut-être le plus gros nom qui a fait vraiment mal, qui est le joueur de 19 ans, qui a forcé le drakkar de Ben Kubekomo à changer complètement son horizon par rapport à cette année. Mais sinon, les autres joueurs qu'on perd, bon, c'est sûr qu'il y en a quelques importants, là, des Alexandre Blais, des Luke Coughlin, qui lui part à l'Université du Maine, Julius Sumpf, mais on parle de gars qui ont essentiellement 20 ans. Donc, je me demande si la LHJMQ, à quelque part... ne l'a pas eu échappé belle et à quelque part sera peut-être un petit peu avantagé par rapport aux deux autres ligues où là t'as eu des pas mal des plus grosses vedettes. Pas besoin de rappeler Gavin McKenna du côté de la WHL, mais même un gars comme Malcolm Spence qu'on voyait très très gros au début de la saison passée, finalement c'était un choix de deuxième tour, mais qui lui part du côté de l'Université du Michigan, un défenseur caractère offensif comme Henry Muse, des gars comme ça. Donc, tu sais, à quelque part, tu peux voir que ça s'est bien passé quand même.
Marty, t'as entendu parler d'un aspect intéressant qui est à considérer pour les joueurs du Québec, qui pourrait compliquer la vie quand même de se joindre plus rapidement dans la NCAA.
Ouais, c'est un point de vue qui est intéressant et ça fait un peu du chemin par rapport à ce que je viens de dire. Le fait que c'est beaucoup des joueurs de 20 ans qui ont quitté la LHJMQ, peut-être un peu moins plus tôt. Puis ça veut pas dire que des joueurs comme Carbonneau n'auraient pu partir non plus, mais que ça peut peut-être s'atténuer un peu. On m'a fait penser au côté scolaire, en fait, et où, évidemment, le côté linguistique des Québécois et tout ça, c'est peut-être un peu la barrière de tout ça, est peut-être un peu moins évidente, mais le côté scolaire également, tu sais, on le sait, nous, au Québec, il faut quand même que tu passes par les cégeps avant de pouvoir t'en aller à l'université, t'as une étape de plus à faire. Dans le cas de la... dans le cas, justement, des joueurs de la LHJMQ, je parle surtout des Québécois, ben si t'as ton cégep à faire, et si t'as, disons, ton 17, 18 ou 19 ans, ben ça peut peut-être faire en sorte que, justement, t'es... et je le répète, c'est pas comme si ça n'arriverait pas non plus, mais peut-être que ça peut t'inciter à demeurer un peu plus longtemps dans la LHJMQ, à vouloir poursuivre un petit peu plus ton cégep, question d'obtenir tes acquis, tout ça, et de partir ensuite dans la NCAA. Là, on a vu les nouvelles des dernières semaines, comme quoi, justement, on va autoriser les équipes de la LNH à envoyer au moins un joueur dans la Ligue américaine à 19 ans, donc toutes sortes de mesures comme ça. Donc, ça, quelque part, si on force les joueurs, je prends un exemple comme Carbonneau, à se diriger dans la Ligue américaine l'an prochain, même si lui, c'est un lait, tu l'as bien mentionné, ben ça peut peut-être faire en sorte que là, on va garder un petit peu plus les joueurs, les gars vont partir, mais peut-être un peu plus à 20 ans, peut-être un peu moins là, des âges où, entre guillemets, c'est un peu plus critique, là, comme 17 ou 18 ans, disons. Là.
Ouais, puis un angle qu'on n'a pas beaucoup parlé dans cet exode-là vers la NCAA, un programme qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est le programme de développement américain, le fameux programme de Cole Caulfield, le programme qui a produit quand même plusieurs joueurs à chaque repêchage. Bon, cette année, c'était peut-être un peu plus faible, mais de façon générale, il y a beaucoup de talent qui sort de là. Il y en a un kid qui va quitter justement ce programme-là.
Ouais, ben l'histoire est intéressante pour l'avenir du programme. Tu sais, on parle souvent de la LCH, quoi, ça va être difficile, qu'on va perdre des gros noms et tout ça, mais je me demande si en ce moment, ce qui se passe avec la NCAA, le fait qu'on se renforce beaucoup, qu'on ajoute des joueurs canadiens, et surtout que les autres ligues perdent en calibre, si ça ne va pas affecter un petit peu le programme américain des moins de 18 ans. Je te donne un nom très rapidement, désolé, ça a été le troisième meilleur pointeur de l'équipe. Du programme américain des moins de 17 ans l'an dernier, son nom c'est J.P. Herbert, là. Lui a décidé de quitter le programme, les rumeurs l'envoient dans la WHL. Mais là où je m'en vais avec ça, c'est que si tu décortiques un peu le programme, comment ça fonctionne? Tu joues beaucoup de matchs contre la USHL et tu joues beaucoup de matchs contre la NCAA. Les matchs contre la NCAA, si tu t'amènes dans les matchs des moins de 18 ans, c'est pas trop pénalisant, mais la majorité de leurs matchs sont contre les équipes de la USHL et surtout des équipes dans l'Est. Mais tu me vois venir, si à un moment donné, les joueurs partent un peu plus vers la Ligue canadienne de hockey, qu'on estime que c'est une meilleure ligue pour se développer que la USHL, ou qu'on estime tout simplement que la NCAA est peut-être un petit peu mieux, ben là, tu vas peut-être avoir commencé à avoir des joueurs du côté des équipes de la USHL qui sont moins talentueuses. Donc, tu as moins d'opposition, tu as moins de calibre, et à un moment donné, dans ce fameux programme-là, tu veux le meilleur calibre de jeu possible pour te développer. Donc, c'est là, quelque part, je me dis, si c'est peut-être inquiétant de leur côté, peut-être qu'il va y avoir des joueurs qui vont se diriger pas mal plus comme un Herbert dans la WHL, dans la OHL, dans la LHJMQ ou à la limite directement dans la NCAA, si tu es capable. Et c'est pas pour rien qu'on entend beaucoup de rumeurs. Je sais que les Remparts de Québec ont repêché notamment un Américain au premier tour. Puis les rumeurs, c'est que le père disait, ben écoute, on pense que finalement le programme américain des moins de 18 ans, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour son développement. Donc ça va être intéressant. On en parle depuis très longtemps, là, les Cole Caulfield, les Austin Matthews et compagnie qui sont tous sortis de ce programme-là. J'ai hâte de voir dans les prochaines années, ça pourrait changer ça.
Mm-hmm. Ben, justement, en lien avec ça, je sais que la LHJMQ a encore un projet potentiellement de grossir ses cadres et de retourner aux États-Unis, d'y aller avec une troisième tentative d'expansion américaine. Est-ce qu'avec le climat présentement, ce qui est en train de se passer, il risque de métamorphoser un peu comment qu'on fait le hockey junior dorénavant? Est-ce que ça devient encore plus pertinent d'explorer vraiment encore plus la possibilité de former au moins une équipe du côté américain?
Ouais, ça, je pense qu'on n'aura pas vraiment le choix, Tony. C'est parce qu'à un moment donné, si tu veux justement convaincre les bons joueurs américains du côté de la région de Boston de s'amener, ben, le meilleur argument, c'est de dire que ben, tu vas pouvoir jouer dans un rayon d'une heure de chez vous. Donc ça, on dirait que c'est quand même très intéressant. Et là, bien évidemment, avec la barrière qui s'élimine, puis on a commencé à le voir au niveau des autres, de certaines équipes de la LHMQ, tu commences déjà à voir des Américains qui s'amènent. Je pense surtout aux Seahawks de Saint-Jean qui ont attiré quelques joueurs. Tu as les Wildcats de Moncton également. Donc, tu penses que tu vois déjà un vent de changement qui s'amène de ce côté-là. Et évidemment, je pense que du côté de Mario Cecchini, de la direction de la LHMQ, tu es très, très, très avantageux de vouloir ajouter deux équipes-là. Parce que ça va simplement t'aider. Les joueurs sont peut-être pas tous excellents, mais ça va t'aider à garder quand même un bon bassin, d'attirer peut-être un joueur qui... ça donne un avantage aux joueurs. Plutôt que de n'avoir que les options de la NCAA, mais là, finalement, t'as un calibre quand même professionnel qui est chez vous, qui est pas très loin non plus.
Je me tourne du côté de la messagerie texte. On parlait de l'Armada de Blainville-Beaubriand, puis tu l'as dit à juste titre plus tôt dans l'émission, Tony. Ils compteront sur l'espoir du Canadien de Montréal, Arseni Radkov. Éric, sur la messagerie texte. Nous allons être la famille d'accueil d'Arseni Radkov. C'est un bon jeune.
Oui.
Et il lui demande même de lui apprendre le français.
Crime, c'est donc bien cool,
il
ça.
Il a vraiment l'air d'un bon kid.
Wow. C'est quoi le nom de l'auditeur?
Éric.
Salut, Éric. Ben, moi, là, non seulement je trouve que c'est un geste phénoménal, les familles de pension, là, c'est tellement important pour la vie de ces jeunes-là. J'en ai connu plusieurs dans l'hockey junior, là. C'est incroyable à quel point la plupart des familles, là, c'est pour eux autres, là... Ça devient leur fils d'adoption là, pendant leur passage. Exact. Ils s'impliquent dans la vie de ces kids-là. Vous êtes extrêmement importants. Puis j'ajoute à ça aussi les familles de pension du tournoi Pee-wee de hockey de Québec.
Ah, ça c'est vrai, ça. C'est un bon point.
Il s'en prend là, énormément à chaque année. Ça dure, le temps que ça dure, là, pendant quoi? 2 semaines à Québec? Ben, il y a des gens qui s'impliquent là-dedans. D'année en année, il y a des kids qui s'en viennent dans les familles. Ben, Éric, moi, je te lève mon chapeau.
Ouais, fait que salutations à vous. Ouais. Salutations à toi, Éric. Merci beaucoup, Marty. On se reparle demain.
Ouais, ça fait plaisir. À demain, les gars.
Salut, Marty. Bye-bye.